Décryptage. Anne Corpet.
Des milliers de responsables politiques, d'experts et défenseurs de l'environnement sont rassemblés depuis lundi à Lisbonne, à l'appel de l'ONU, pour tenter de sauver la santé fragile des océans. Ils recouvrent plus des deux tiers de la surface de la planète et jouent un rôle essentiel pour garantir la vie sur Terre. Ils sont aussi nourriciers. Les océans sont une source vitale de protéines pour le quotidien de milliards de personnes. Mais la surpêche, le réchauffement climatique, la pollution plastique s'ajoutent à tous les effets dévastateurs. En absorbant les effets néfastes induits par notre conduite, les océans souffrent et leur capacité à réparer nos erreurs s'amenuise. Notre échec à préserver l'océan aura des effets en cascade, prévient le secrétaire général de l'ONU. Aujourd'hui, Décryptage plonge dans l'océan, ausculte la santé fragile d'un élément vital menacé. Avec nous en studio pour parler des océans, Marina Lévy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes océanographe, directrice de recherche au CNRS, directrice adjointe du département océan, climat et ressources de l'Institut de recherche pour le développement et spécialiste des questions liées au climat et à la biodiversité. Merci d'être avec nous. Nous sommes également en ligne avec François Sarano, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'association Longitude 181, La Voix de l'Océan, océanographe, plongeur, auteur de « Au nom des requins » qui a été publié chez Actes Sud. Ils sont la garantie de notre survie, leur force et leur beauté nous émerveillent, mais on est submergé d'inquiétude quand on se penche sur l'état des océans. C'est un peu ce qu'a dit le secrétaire général de l'ONU en ouverture de la conférence de Lisbonne. Et je vous propose tout d'abord d'écouter un extrait de l'intervention d'Antonio Guterres lundi dernier.
Quand on voit la Terre depuis l'espace, on réalise vraiment que nous vivons sur la planète bleue. Les océans nous réunissent tous. Malheureusement, nous avons considéré les océans comme acquis. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce que j'appellerais un état d'urgence des océans. Nous devons inverser le cours des choses. Un océan plus sain et productif est vital pour notre avenir commun.
L'océan est vital, dit Antonio Guterres. Alors, tout d'abord, Marina Lévy, il nous protège partiellement du réchauffement climatique.
Oui, tout à fait. L'océan est reconnu, est un acteur important du système climatique. Et il a absorbé, on estime à 25%, la quantité des gaz à effet de serre émis par l'homme dans l'atmosphère ont été déjà absorbés par l'océan. Et il a également permis de capturer 90% de l'excédent de chaleur lié au réchauffement climatique.
Mais nos émissions de gaz carbonique, de CO2, ont augmenté de 50% au cours des 60 dernières années. Et les températures sur Terre augmentent. François Sarano, les océans sont capables d'absorber tout ça ?
Oh, ils sont capables de le faire. Mais la vie qui peuple l'océan, elle, subira des conséquences considérables. Mais ce que vous disiez en début de reportage, on l'entend depuis 40 ans, on l'entend depuis 50 ans. Ce qu'a dit M. Guterres au dernier sommet de l'océan à Brest, là.
En février dernier.
Et oui, on a entendu les mêmes choses. Mais aujourd'hui, il y a un profond malentendu. Un profond malentendu qui est un malentendu sémantique. Lorsque nous, organisations environnementales comme Longitude 181, on parle de l'océan, on voit des êtres vivants, on voit des espèces. On voit de la vie. Lorsque beaucoup de dirigeants et de chefs d'entreprise parlent des océans, ils voient directement des ressources. Et
alors, on va revenir sur les ressources de l'océan. Marina Lévy, vous pensez, comme François Sarano, qu'on entend les mêmes choses, les mêmes constats désastreux sur la pollution, sur le plastique, sur la surpêche, et qu'on n'agit pas assez. Vous avez l'impression que cette conférence de Lisbonne, c'est une conférence de plus ?
Non, je pense que cette conférence, elle arrive déjà, elle a été retardée de 2 ans à cause du Covid, et elle arrive à la suite de 2 rapports de l'ONU qui sont importants. Le rapport du GIEC qui était dédié aux océans, donc le GIEC, le groupement d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, et le rapport de l'IPBES, donc le panel international sur la biodiversité et les systèmes écosystémiques. Ces 2 rapports ont été publiés en 2019 et ont fait deux choses importantes. D'abord, un état des lieux des observations des dégradations actuelles. Alors, aussi bien du côté du rapport de l'IPBES pour ce qui concerne la vie dans les océans et du rapport du GIEC pour ce qui concerne tout ce qui concerne le climat et les habitats, en fait, de cette vie dans les océans. Et le deuxième socle de ces rapports, c'est de montrer les projections futures, d'envisager différents scénarios d'évolution envisageables en fonction de nos émissions de gaz à effet de serre, du développement durable ou peu durable qu'on peut faire des ressources. Et donc maintenant, on se base quand même sur des connaissances chiffrées avec des scénarios futurs qui ne sont pas inscrits, mais qui vont dépendre de nos comportements actuels. Et je pense que cette conférence, elle arrive au bon moment pour pouvoir justement prendre des décisions en toute connaissance de cause.
Parce que l'augmentation des températures de l'océan, ça réduit sa capacité à refroidir notre Terre, mais aussi ça affecte bien sûr la vie sous-marine. François Sarano, vous êtes plongeur, vous le constatez ?
Oui, on le constate lorsqu'on plonge sur des récifs coralliens. Mais j'insiste sur le fait que, formidable les nouvelles connaissances, je n'ai aucun doute sur l'intérêt de ces rapports. Mais lorsqu'on produit régulièrement des choses qui s'appellent des biocides et qui sont faits pour tuer la vie et qui sont répandus à terre en quantité sans mesure et qui ensuite sont drainés dans les océans, ne favorisent pas la vie. C'est pas la peine de faire des mesures supplémentaires pour savoir que quand on construit et qu'on autorise des chalutiers géants qui dépeuplent les mers, ils vont dépeupler la mer. Enfin bon, il y a un moment donné où formidables les données, formidables les statistiques, mais on sait très bien ce qu'il faut faire et on le savait depuis 40 ans. Bien sûr qu'on est plus précis aujourd'hui, mais jamais on a pris des vraies mesures. Quand on parle de faire des réserves marines, qui est la première chose à faire si on veut voir revenir la vie, il faut que ces réserves marines, ce soient des endroits où on ne prélève pas. Or, 0,3% des surfaces qui sont déclarées en réserve marine, eh bien, on a le droit et seulement sont interdites à la pêche ou au prélèvement.
Alors, vous évoquiez
la contradiction. La contradiction, c'est que on ne prend pas les mesures que l'on sait devoir prendre depuis très longtemps.
Vous évoquiez les chalutiers, la surpêche, et c'est vrai que les pêcheurs côtiers, les pêcheurs traditionnels, j'allais le dire, sont les premiers à constater la raréfaction des espèces qui sont dues à la surpêche, mais aussi au réchauffement, hein, parce que toutes les espèces mobiles qui sont adaptées à des eaux d'une certaine température fuient quand l'eau se réchauffe. Et je vous propose d'écouter Angelo, pêcheur dans le port d'Outbaye, à la périphérie du Cap, en Afrique du Sud. Il a été interrogé en février dernier par Charlotte Cosset.
Il y a quelques années, nous pouvions pêcher sans aucun effort. Il y avait plus de poissons à cette époque. Aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup. Les migrations de poissons ont changé par rapport à avant. À l'époque, vous pouviez aller en mer les yeux fermés et vous attrapiez du poisson les yeux fermés.
Marina Lévy, on sait quelle est la cause principale de la raréfaction des espèces, ou est-ce qu'on connaît bien l'océan au fond ?
On connaît beaucoup de choses, on ne connaît pas tout, évidemment, il y a énormément de recherches en cours. On sait qu'aujourd'hui, la raréfaction des espèces est essentiellement liée à la surpêche. Mais on sait, et ça c'est vraiment une des conclusions du rapport de l'IPBES, on sait que trois quarts des espèces de poissons sont impactées à différents degrés, que la moitié des ressources sont exploitées à leur maximum, avec des maximums de surpêche et de surexploitation en Méditerranée. Mais on sait également que le changement climatique, c'est lui qui va l'emporter dans les années à venir sur la surpêche. Ça va devenir l'effet majeur. Alors pourquoi le changement climatique impacte les ressources ? Pour plusieurs raisons. D'abord, comme vous l'avez dit, le réchauffement des eaux. Les espèces migrent vers des températures plus clémentes.
Quand elles en trouvent, parce que les espèces des eaux froides, j'imagine, ont du mal à trouver
tout à fait,
des eaux froides.
Tout à fait. Donc c'est les espèces tropicales qu'on voit arriver près de nos côtes. Mais il y a plein d'autres effets en cascade qui vont arriver. Le réchauffement, ça induit une déoxygénation des océans qui perdent de l'oxygène. Donc, les habitats des poissons qui ont besoin d'oxygène dans l'eau se raréfient. Et puis, on a des effets d'acidification, dont on en a parlé tout à l'heure. L'absorption de gaz carbonique acidifie l'eau, ce qui est néfaste pour tout un tas d'organismes comme les moules, tous les organismes qui ont une coquille calcaire, voilà. Les coraux, etc.
Et François Sarano, j'entends votre colère face à l'inaction générale. Par exemple, quelles mesures, à votre avis, pourraient être prises rapidement qui auraient un impact décisif ?
Très simple. Effectivement, les réserves marines, 30% de réserves marines, comme il a été suggéré par l'ONU, 30% de vraies réserves marines, et les exemples sont là pour nous dire que lorsqu'on fait une réserve, ça marche. Non seulement les poissons se renouvellent, mais ils exportent des larves vers les zones qui sont exploitées et ainsi les repeuplent. Or, aujourd'hui, c'est une mesure qui peut être prise très rapidement, qui aura des effets en une quinzaine d'années, et on verra se repeupler des mers comme on le voyait du temps de nos pères, parce que les pêcheurs qui, à cette époque, regarderaient nos chalutiers, riraient de voir les efforts considérables, l'énergie, le pétrole, tout ce qu'on dépense pour attraper si peu de poissons. En deux mots, aujourd'hui, on a une gestion des pêches de la misère qui fait qu'on dépense une énergie considérable parce qu'il y a de moins en moins de poissons. Il faut les faire revenir et penser une gestion de la plénitude sur des populations qui sont à nouveau dans leur pleine démographie.
Marina Lévy, à vos sujets des aires marines, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais ajouter que l'océan n'était pas une région homogène, qu'on pourrait le penser, et que 30% d'aires marines protégées, c'est bien, mais il faut aussi décider où est-ce qu'on va les placer. Et l'endroit où on décide de les mettre, c'est aussi très important. Il y a des régions qui sont des régions nourricières pour les poissons, qui sont des nurseries, et c'est qu'il faut absolument protéger. Il y a d'autres régions qui sont très pauvres, comme des déserts dans l'océan, où c'est peut-être moins important et moins crucial de placer des aires marines protégées. Et peut-être un deuxième point sur ces aires marines protégées qui en effet sont un élément très important, c'est que c'est important d'emporter avec nous l'adhésion des communautés dans ces projets de conservation et de gestion durable, parce que ça ne suffit pas de dire on va mettre des aires marines protégées, mais il faut effectivement les protéger. Et pour les protéger, il faut que tout le monde adhère à ce projet de protection.
Alors, je voudrais qu'on parle un instant de la question de la pollution du plastique, parce que c'est quelque chose que chacun d'entre nous peut constater. D'habitude, quand on évoque cette pollution, on pense aux tongs ou aux bouteilles retrouvées sur la plage ou à ce fameux continent de plastique qui erre dans l'océan. Mais il y a une autre pollution plastique invisible à l'œil nu qui fait également des ravages, et y compris sur la santé humaine. Écoutez cet extrait du reportage réalisé en Malaisie sur la côte qui longe la mer de Chine par Gabriel Maréchaux. C'était en février dernier.
J'ai des problèmes d'ulcères à l'estomac. Un jour, je consultais pour cela le docteur Lee et tout d'un coup, cette question m'est venue. Est-il possible que moi aussi j'ai du plastique dans mon estomac ? Docteur Lee m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça et je lui ai alors rappelé que nous mangeons tous ici des poissons et des fruits de mer contaminés au microplastique.
Intrigué, le docteur Lee décide alors de rejoindre l'équipe de chercheurs pour analyser des tissus humains récoltés après des ablations du côlon sans s'attendre au choc de ce qu'il découvre.
Nous avons trouvé en moyenne 300 microplastiques dans chaque côlon qui peuvent libérer des substances comme le bisphénol A, un perturbateur endocrinien.
Donc le plastique qu'on renvoie à la mer se retrouve dans nos assiettes, dans nos estomacs. François Sarano, est-ce que les mesures du type interdiction des sacs en plastique, ça suffit ?
Ça ne suffit pas, c'est une très très bonne mesure et surtout ça éveille les consciences. Il faut simplement changer nos modes de vie. On n'arrête pas de le répéter, mais tant qu'on nous poussera à la consommation, tant qu'on nous poussera à changer de téléphone portable, on utilisera de plus en plus de ressources et d'énergie et on essaiera d'aller exploiter les grands fonds pour y trouver les minéraux qui sont nécessaires à ces téléphones portables, sans imaginer les conséquences que ça va avoir sur des écosystèmes que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une telle course à la consommation qu'il est bien plus important de réduire globalement notre consommation et de changer nos modes de vie. Pour nous, les riches qui pouvons le faire, de façon consentie. Parce que sinon, ça ne va être que des beaux discours. Si nous continuons à manger du Nutella qui déforeste les forêts de Sumatra, si nous continuons à manger de la viande, ça ne changera rien. C'est un tsunami de consommation qui est en train de dépeupler la planète et les océans. Je crois que c'est une affaire globale.
Marina Lévy, on parle beaucoup de réchauffement climatique, des arbres, des forêts. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une conscience dans la population du problème des océans? Que finalement, cette colère qu'on entend chez François Sarano, elle est partagée par la population? Est-ce que l'océan, ce n'est pas un peu le parent pauvre, en fait, de cette lutte contre le réchauffement climatique?
J'ai l'impression que quand on parle des océans, il n'y a pas du tout de conscience du changement, de l'amplitude, de l'ampleur du changement en cours. J'ai l'impression qu'on pense tout de suite justement à ces plastiques qui se déversent sur les plages. Mais je pense que les gens ne réalisent pas à quel point... parce que peut-être, je pense que nous sommes nés, alors je parle de ma génération, dans un monde où on imaginait que l'océan était infini. Il y avait cet imaginaire lié aux océans, que l'océan est plus grand que nous et nous dépasse. Et on se rend compte aujourd'hui de sa finitude et on se rend compte qu'effectivement, on impacte sur lui de manière significative. Je veux dire, c'est des chiffres qui sont absolument énormes, les changements qu'on observe. C'est 1 degré de réchauffement pour l'ensemble des eaux de surface, c'est 30% en plus d'acidification, c'est des millions de tonnes de plastique qui sont déversées chaque année. C'est vraiment des effets qui se voient, qui s'accumulent. Et je pense en effet que les gens n'en ont pas conscience. Et cette conférence a l'avantage, vraiment, c'est la seule conférence des Nations Unies qui adresse un unique objectif de développement durable, l'objectif 14 pour la conservation et l'usage durable des océans, des mers et des ressources marines. Et vraiment, il y a besoin de cette prise de conscience parce que effectivement, on n'a pas pris les mesures qu'il fallait dans les temps qu'il le fallait. Mais pour prendre ces mesures, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment l'adhésion de tous et l'adhésion de tous les acteurs impliqués dans le secteur marin. Et c'est à ça que sert et que doit servir cette conférence aussi, c'est de générer cette adhésion.
François Sarano, est-ce qu'il est encore temps? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore sauver l'océan ou on est déjà trop tard, comme pour les forêts?
Attendez, le passé ne m'intéresse pas. Demain sera mieux, c'est à nous de le construire. Je suis sûr qu'on peut faire des choses formidables. Moi, au cours de mes 60 ans de vie en mer, j'ai vu changer les choses et j'ai vu de très bonnes choses arriver. J'ai vu les cétacés revenir, les grands cétacés, alors que chassés, ils allaient disparaître. J'ai vu les réserves marines se repeupler. Oui, 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 c'est possible, bien sûr. Mais comme je l'entends, oui, il faut l'adhésion de tous. Mais cette adhésion, elle doit être transmise par chacun à son entourage. Et ces grandes conférences formidables, j'adhère, je suis d'accord. Mais force est de constater, moi qui en ai vécu beaucoup depuis, encore une fois, Rio en 1992, où j'ai entendu la même chose, chaque fois, aucune mesure réelle n'est prise.
Par exemple, donc, sur la surpêche, la surpêche en haute mer...
La surpêche, c'est depuis 1990. On a passé le seuil critique en 1990. On le savait à Rio en 92. On l'a dit, on l'a écrit.
Et il n'y a pas eu d'amélioration de ce point de vue-là. Les chalutiers continuent
Non seulement il n'y a pas eu mais il n'y a pas eu d'amélioration. Aucune amélioration. Aujourd'hui, on racle les fonds de tiroir en dépensant de plus en plus d'énergie, en augmentant notre effort pour tirer les derniers poissons. Et encore une fois, nous le savons. Ce n'est pas qu'on ne le sait pas, c'est qu'on ne met rien en œuvre. Les politiques, soumis souvent à des pressions ou parce qu'ils ont une méconnaissance grande des écosystèmes et du milieu marin, ne prennent pas les mesures qui sont nécessaires. J'ai été auditionné au Sénat, on m'a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour changer
la chose. Très brièvement, parce qu'on n'a plus que quelques secondes, je suis désolé.
Eh bien, mais tout le monde le sait, encore une fois, ne relançons plus, ne subventionnons plus, Les chalutiers géants. Et arrêtons de déverser des néonicotinoïdes et toutes sortes de pesticides et de biocides qui tuent les organismes vivants. Enfin, merci. Je veux dire, il y a des choses qui sont élémentaires.
François Sarano, merci d'avoir partagé votre indignation. Vous êtes président de l'association Longitude 181. Marina Lévy, océanographe, merci d'être venue en studio. Merci aussi à Hélène Avril qui a réalisé cette émission.